Vous écoutez RTL.
Bonjour, vous êtes bien dans le meilleur de Confidentiel spécialité sur RTL, cette heure où nous voyageons ensemble dans le sillage d'une célébrité, tout ce qui a pu amener un homme ou une femme au sommet, la lumière, les succès et puis tout ce qui a été longtemps caché, les doutes, les abus, les addictions. L'homme dont je vous raconte l'histoire cet après-midi a toujours l'image d'un séducteur sauvage et tendre. Sauvage, il l'était sans doute, tendre beaucoup moins, même si on l'avait affublé d'un surnom qui lui colle toujours à la peau, The King of Cool, le roi du cool. Derrière ce visage de bad boy chic se cachaient bien des drames et une sourde violence. Au nom de la loi, la grande évasion, Bullitt, Steve McQueen dans le meilleur de Confidentiel spécial été, c'est tout de suite sur RTL.
Confidentiel.
Jean-Alphonse Richard. Steve McQueen.
Steve McQueen n'était pas un homme tranquille. Il parlait doucement, mais à l'intérieur, la colère grondait. Steve McQueen semblait immobile, mais il était en permanence en mouvement. Toute sa vie, il aura couru sur les pentes d'un volcan, pour fuir, à la recherche d'une enfance qui n'avait jamais existé, et d'un bonheur simple qui lui aura toujours échappé. La cavale de Steve McQueen a commencé dès ses premiers pas. « On ne m'a pas mis au monde, on m'a laissé tomber », dira-t-il. Sa mère, Julianne Ann Crawford, est une danseuse de cabaret qui gagne sa vie en couchant avec des hommes, des amants d'une heure ou d'un soir. À 5 ans, Steve McQueen est déjà un gamin des rues, abandonné à lui-même, les poches et le ventre vide. Longtemps, il détestera sa mère au point de souhaiter sa perte. Mais quand elle mourra, des années plus tard, il s'écroulera en sanglots sur sa tombe au cimetière de Glendale, brutalement inconsolable. Son père, Bill McQueen, ancien pilote de la marine devenu cascadeur et homme à tout faire dans des cirques ambulants, n'a jamais eu de visage. Steve McQueen ne se souvient pas de lui, de ce père qu'il a abandonné alors qu'il était bébé. Lui aussi, il le détestera, mais ne pourra s'empêcher de le rechercher frénétiquement. Bien des années après, alors qu'il faisait ses grands débuts dans le cinéma, il retrouvera son adresse dans une banlieue paumée de Los Angeles. Mais quand il frappera à la porte, il apprendra que Bill McQueen était mort depuis 3 mois, et que chaque fois qu'il regardait à la télé le feuilleton vedette au nom de la loi, il disait « Ce McQueen, ça pourrait bien être mon fils ». L'enfance et l'adolescence de Steve McQueen ne forment donc qu'un chemin qui s'avance dans la nuit. Un parcours misérable qui hésite entre Charles Dickens et Jack London. Puisque personne ne veut s'occuper de lui, Steve McQueen ne pourra compter que sur lui-même pour survivre. Il se retrouve dans la ferme de l'oncle Claude, dans le Missouri, le gîte et le couvert, quelques coups de trique quand on désobéit. Sa première bagarre, à 7 ans, il casse le nez d'un garçon 2 fois plus âgé que lui et finit au poste de police. L'année suivante, il est inscrit dans une école où on le déclare illettré. À 10 ans, il conduit déjà des tracteurs et des camions, s'est tiré au fusil de chasse et porte même un revolver. Steve McQueen fait ainsi l'apprentissage de l'errance, voyageant entre la ferme de l'oncle Claude et l'appartement de sa mère en Indianapolis. Il a 15 ans et il en paraît déjà 20, musclé, ombrageux, bagarreur, à l'école de la rue. Il va y faire toute son éducation. Pas de rêve de cinéma pour l'instant, juste le besoin de survivre. Pour manger, Steve McQueen fouille les poubelles, cambriole des maisons, voyage en sautant dans des trains de marchandises, fugue en permanence et se retrouve en maison de correction. L'endroit s'appelle la Boys Republic, dans les collines de Los Angeles. On y redresse les petites frappes et les têtes brûlées, à qui on inflige la punition de l'isolement. Steve McQueen s'en inspirera pour interpréter quelques années plus tard la scène du mitard dans La Grande Évasion. Après 14 mois à la Boys Republic, on le retrouve laissé à lui-même, à 16 ans, dans des bars crasseux où il gagne quelques billets en jouant au billard. Là aussi, il rejouera ces mêmes scènes à l'écran dans le kit de Cincinnati. Dans ses confidences, Steve McQueen racontera avoir fréquenté des truands, travaillé sur des plateformes pétrolières, s'être engagé dans les Marines à 17 ans, avoir plongé et replongé en boucle dans la délinquance jusqu'à son 20e anniversaire. Déjà vieux, éprouvé, balafré, à l'âge où normalement l'existence s'ouvre à toutes les promesses. J'avais 19, 20 ans et j'étais un vieillard à l'époque. Je n'ai jamais appris à être jeune, racontait-il. Steve McQueen ne glorifiera jamais son passé de mauvaise graine. Il en sera même honteux. Des années plus tard, il lui arrivera d'essayer de retrouver toutes les maisons qu'il avait cambriolées pour laisser discrètement au propriétaire, sans explication, une liasse de dollars en guise de dédommagement. Difficile de savoir si cette première vie de misère n'était pas romancée et noircie par Steve McQueen lui-même. La seule certitude, c'est qu'il a appris dans ces années-là à cultiver une sourde violence, sans beaucoup de considération pour les femmes. La première d'entre elles, sa mère, ne lui renvoyant qu'une image brisée et indigne.
RTL.
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel.
Un premier stop dans ce confidentiel sur RTL consacré à Steve McQueen. On vient de raconter les premiers pas de ce garçon qui, il le dira lui-même à plusieurs de ses biographes, il n'a pas eu d'enfance. On s'arrête sur ce Steve McQueen des premiers temps, acteur débutant et inconnu. Et on le fait avec vous, Olivier Delcroix. Bonjour et bienvenue sur RTL.
Merci, bonjour.
Vous êtes journaliste au Figaro, rédacteur en chef du Figaroscope, avec nous dans ce studio RTL, parce que vous êtes un excellent connaisseur de la pop culture et du cinéma américain. Vous avez écrit « Le cinéma d'action américain » aux éditions Ebeke, où évidemment Steve McQueen a toute sa place. On peut dire qu'il n'aurait peut-être jamais dû être acteur, Steve McQueen.
Oui, ben c'est ce que l'on comprend assez rapidement. L'un de ses biographes également, il finira par avouer que bon, sa mère était quand même alcoolique, elle se prostituait, son père, qui était pilote dans les meetings aériens, il ne l'a quasiment pas connu. C'est le vide total, quoi. Et effectivement, on comprend pourquoi ce personnage, un petit peu ce cabochard élégant, arrogant, jeune, mais qui en veut, totalement désaxé, un peu comme on pourrait dire les Misfits de John Huston, est un acteur comme ça, livré à lui-même, en roue libre, et qui finalement décide d'embrasser la carrière d'acteur parce que son copain Mark Rydell lui a dit « Tu sais, à Hollywood, il y a beaucoup de filles ». Et ce qui va être un peu magique, c'est cette phrase. Voilà.
Alors, on a raconté cette enfance terrifiante, d'ailleurs, très très noire de Steve McQueen. Est-ce qu'il n'a pas un petit peu fabriqué lui-même sa légende ?
Je pense que ça l'amusait, évidemment, de noircir son enfance. En même temps, je crois qu'au départ, les biographes ont dû un petit peu lui tirer à l'oreille. Il voulait rien dire. Hein. C'est que je pense qu'il a, véritablement été dans une sorte de déni d'enfance. L'idée de raconter son enfance, qui est une enfance à la Zola, ne l'intéressait pas. Alors, il brodait autour, effectivement. Selon les biographes qu'on peut lire, on s'aperçoit que il dit tout et n'importe quoi, il dit tout et son contraire. Oui, il est déjà dans le cinéma.
Alors, il y a quelque chose qui apparaît assez vite dans ses tout débuts de très jeune acteur, c'est la drogue. Elle arrive très tôt dans sa vie.
Il est très vite dans ces milieux-là parce que effectivement il recherche des paradis artificiels, il recherche l'évasion, le grand saut, le saut de l'ange. Les sensations fortes l'accompagneront toute sa vie, que ce soit les motos, les voitures, les bateaux, les tanks même, puisque il aura tout conduit dans sa vie. C'est incroyable. Et donc ce qu'il recherche, c'est ça. Il est accro aux sensations fortes et bien évidemment il va user et en abuser.
En quoi ce tout jeune Steve McQueen débutant est-il différent des autres rebelles d'Hollywood? Alors évidemment je pense à James Dean qui disparaîtra très vite, puis Marlon Brando et pourquoi pas même Richard Burton. En quoi est-il différent?
Il est différent parce qu'il a une espèce de vraie dureté. Et puis lui il sort du ruisseau, pour le coup c'est totalement vrai. C'est un authentique rebelle, anticonformiste qui a la hargne chevillée au corps et cette envie comme ça de croquer la vie à plein dedans. Un acteur dans un de ses films disait quand je tape quelqu'un au cinéma, on croit que je l'invite à prendre un verre au bar, alors que quand Steve McQueen a envie de taper quelqu'un et le menace de le taper, on a vraiment l'impression qu'on va se prendre un poing dans la figure.
Confidentiel, Steve McQueen.
Jean-Alphonse Richard.
Toute sa vie, Steve McQueen entretiendra avec ses épouses, ses compagnes, ses maîtresses, une relation chaotique, un machisme déclaré, où une femme est avant tout une femme au foyer et une mère de famille. Possessif et jaloux, impulsif et violent, il n'hésitera pas à donner des coups à celles qui ne suivront pas ses quatre volontés, quitte à sombrer ensuite dans un profond désespoir, conscient d'avoir ruiné toute chance d'être heureux. Steve McQueen adore rouler vite, jouer avec le danger, tromper la mort, comme si sa vie se résumait à une partie de roulette russe. Il aurait dû être cascadeur, champion de motocross ou pilote de course. Il n'a jamais voulu vraiment être acteur. C'est par hasard et sans y croire vraiment qu'il débarque dans le monde du spectacle. L'armée, qu'il vient de quitter, lui offre une formation à l'école d'art dramatique de Sanford Meisner. Steve McQueen fait ses gammes. « Je voulais juste tenter le coup », dit-il. Longtemps, il va partager son temps entre les courses de moto à Long Beach, qui le font vivre, et la comédie. Même si Steve McQueen n'est pas un débutant comme les autres. Sur scène, il s'exprime quasiment sans effet, sur un ton nonchalant. « Laisse faire la caméra », conseillera-t-il plus tard aux débutants sur les plateaux de cinéma. Il ne montre rien de la hargne qu'il habite, mais dès que la lumière s'éteint, le naturel revient au galop. Ses collègues acteurs, les metteurs en scène, se heurtent à cette boule de nerfs. Steve McQueen est inconnu, mais il a déjà la réputation d'être imbuvable, incontrôlable et dangereux. Steve McQueen va longtemps payer cher son insolence. Condamné à la figuration, parfait second couteau de la machine hollywoodienne qui a déjà ses deux rebelles, James Dean et Marlon Brando. Steve McQueen joue les utilités, il n'en demeure pas moins persuadé d'être le meilleur. Quand Paul Newman décroche le rôle dans Marqué par la haine et remplace James Dean qui vient de se tuer, il ne décolère pas. C'était moi qui devais avoir ce rôle, c'était presque l'histoire de ma vie, éructe McQueen. Il détestera toujours Paul Newman. Steve McQueen traîne sa sale réputation. Beau gosse insoumis, mauvaise herbe séduisante. Il vit à New York, dans le quartier étudiant de Greenwich Village, où on l'a surnommé El Bandido, le bandit. Il dépense ses petits cachets pour payer l'essence de sa moto, s'acheter de la marijuana ou encore du peyote, un extrait de cactus mexicain aux vertus hallucinatoires. La drogue, découverte avec le cinéma, ne quittera plus jamais Steve McQueen qui traversera les 60s et les 70s en goûtant à la plupart des substances à la mode, du LSD à la cocaïne. Ce jour de juin 1956, le regard de Steve McQueen a croisé celui d'une très jolie brune, Neil Adams, une danseuse. Elle commence à triompher dans une comédie musicale sur Broadway et le cinéma lui fait les yeux doux. L'attraction est réciproque. Ils se marient et pour fêter ça font une virée à 150 à l'heure sur les routes mexicaines. Le couple aura deux enfants, une fille, Terry Leslie, puis un garçon, Chadwick Steven. Neil Adams se change vite en femme idéale pour Steve McQueen, un modèle d'épouse attentive et de mère attentionnée. Pour les yeux bleus de Steve, Neil a tout simplement interrompu sa carrière. Elle sait, et plus tard Ali Magro l'apprendra à ses dépens, que c'est la condition absolue pour vivre avec cet homme. Cette clause-là ne figure pas dans le contrat de mariage, mais elle pourrait stipuler que dans le couple, seul Steve McQueen a le monopole de la lumière. Le droit de n'en faire qu'à sa guise, de jouer la comédie, mais aussi d'avoir des maîtresses, comme l'actrice Lita Milan, que le jeune marié fréquente aussitôt. Des dizaines d'autres femmes finiront dans son lit. Neil apprendra à fermer les yeux sur cette infidélité maladive. Pour le moment, elle conseille Steve McQueen pour sa carrière, l'incite à accepter tous les rôles qui se présentent, comme ce personnage qu'on lui offre dans un film d'horreur de série B. Il est réticent, mais c'est elle qui a raison. Le Blob, destiné aux oubliettes, battra des records d'entrée. Mais c'est une série télé qui forgera bientôt la légende. Chasseur de primes dans Au nom de la loi, Steve McQueen devient Josh Randall. Redresseur de tort désinvolte qui tire plus vite que son ombre. Avec lui, on est soudain à mille lieues des westerns à la papa. Jamais un cow-boy n'a été aussi moderne. Cette fois, Steve McQueen a un pied dans la célébrité. Dans la proie des vautours, il donne la réplique à Frank Sinatra en personne, qui cherchait un remplaçant à Sammy Davis Jr. Sinatra, parrain du showbiz américain, a adoubé McQueen. Il a plu à Frank, dit le réalisateur Frank Sturgis, qui lui donnera vite un rôle clé dans un prochain film, Les Sept Mercenaires. Sur le tournage de ce remake des Sept Samouraïs, face au géant Yul Brynner, l'une des stars les mieux payées d'Hollywood, Steve McQueen impose son style et son mauvais caractère et tentera même de voler la vedette à Yul Brynner qui, comme Paul Newman, sera un rival.
Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station when I'm scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. And a fighter by his trade, and he carries
always the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, but the fighter still remains.
Jean-Alphonse Richard.
Aucun besoin de se faire des amis. C'est une chevauchée en solitaire que s'offre Steve McQueen à Hollywood. Depuis ses débuts, il n'a qu'un seul désir, faire un film qui ne parle que de lui. Un film où il serait le nombril du monde. En cette année 1963, il atteint une première fois ce sommet d'orgueil avec La Grande Évasion. Le baptême d'une star. Les journaux s'intéressent à ce nouveau visage. Ni jeune premier, ni acteur confirmé. La presse se régale de ses frasques. Cette Mercedes décapotable qu'il a fracassée contre un arbre lors du tournage en Allemagne. Cette nuit au poste pour excès de vitesse. Sa mauvaise réputation, son air sombre. Change dans la vie de Steve McQueen. L'argent devient facile. Les sollicitations pleuvent.
Those fingers in my hair.
Avec Neil et les enfants, il emménage dans le quartier des célébrités, à Brentwood. Une vaste demeure en pierre surnommée le Château. Le magazine Life raconte la saga de ce rebelle qui affirme « J'aurais pu devenir truand si je n'avais pas été acteur ». Son enfance dans la rue, sa jeunesse qu'il passe à rouler à tombeau ouvert, à se délecter du danger et à répéter à qui veut l'entendre qu'il ne dépassera pas l'âge de 50 ans. Un étrange pressentiment, comme si Steve McQueen avait pris officiellement rendez-vous avec la mort. La reconnaissance, le succès, les honneurs auraient pu satisfaire son ego, lui offrir un premier point d'équilibre. Mais c'est tout le contraire qui se produit. Steve McQueen affiche une humeur de plus en plus taciturne, méfiant avec le monde extérieur, à la limite de la paranoïa, avec des fans de plus en plus pressants et envahissants. La drogue, principalement le LSD, démultiplie cette sensation d'étouffement. Il ne donne pas de nouvelles pendant des semaines, s'échappe en solitaire, dort à la Belle Étoile dans le désert, passe des journées entières avec les Indiens Navarro ou à traîner sur des circuits de moto. Steve McQueen est en fuite et le couple qu'il forme avec Neil commence à se fissurer. Neil, qui fait comme si elle ignorait l'envers du décor, la drogue, les absences et toutes ses maîtresses qui font jaser Hollywood, de la pin-up Mamie Van Doren à la débutante Nathalie Wood.
une liaison aussi avec la blonde Sharon Tate. Celle-ci a failli lui coûter la vie.
Jean-Alphonse Richard, RTL,
confidentiel.
On marque une nouvelle pause dans ce confidentiel sur RTL consacré à Steve McQueen, toujours avec nous dans ce studio, Olivier Delcroix, journaliste qui nous accompagne pour nous parler de celui qui désormais est devenu une star. Et quelle star, l'une des mieux payées d'Hollywood. Olivier Delcroix, le déclic de la célébrité, est-ce que c'est le feuilleton Au nom de la loi qu'on connaît très bien en France, ou bien est-ce que c'est La grande évasion ?
Je pense que c'est Au nom de la loi. C'est là qu'il apprend son métier. Ça dure 3 ans, c'est pour CBS. C'est un personnage, Joss Randall, totalement emblématique des feuilletons américains des années 50-60. Et puis c'est un personnage qu'il va forger à sa personnalité. Steve McQueen, qui est alors tout jeune, et pourtant déjà très arrogant, rentre en conflit ouvert avec les scénaristes de la série en disant « Non, je ne suis pas d'accord, je veux pas un chapeau tout neuf qui sort du magasin d'accessoires, je ne veux pas une selle rutilante, je veux véritablement incarner Joss Randall tel que je l'imagine. » Et ça va être un combat permanent. Il va construire le personnage du Bounty Hunters comme il le souhaite, c'est-à-dire le tirer vers sa propre personnalité et en même temps le rendre assez sympathique.
Oui, mais si jeune et déjà très capricieux, comment est-il vu à Hollywood, Steve McQueen?
Il est d'emblée détesté par les producteurs. Il ne se prive pas de les insulter parce que c'est l'autorité, c'est toujours pareil.
Alors il a l'argent, une famille avec Neil Adams, mais il est prisonnier de ses addiction. La première d'entre elles, j'ai envie de dire, sont les femmes.
Mais chez Steve McQueen, la séduction est, je dirais, même intrinsèquement reliée à lui. Cette envie permanente de se prouver qu'il est le plus fort, qu'il est le séducteur ultime. C'est une histoire de manque. Hein. C'est l'amour maternel qu'il n'a pas eu et qu'il va, de toute façon, toute sa vie rechercher à travers cette façon quasi hystérique de séduire, de se prouver qu'il est le meilleur, de prouver qu'il peut être aimé par n'importe qui, n'importe quand. Il est séducteur, mais vraiment dans la plus petite fibre de son corps, il est séducteur.
Et alors, Neil Adams, ça n'est pas la plus connue des compagnes de Steve McQueen, mais elle va rester quand même la femme de sa vie jusqu'au bout.
Neil Adams va rester la plus fidèle, qui va effectivement le récupérer sur le déclin. C'est d'ailleurs assez beau. Ça ressemble quelque part à cette relation très particulière que Marilyn Monroe avait avec Joe DiMaggio. Neil Adams avait cette dévotion, cet amour profond pour lui. Elle le surveillera et voilà.
Et elle restera à ses côtés jusqu'au bout. Hein.
Exactement. Ouais, c'est assez beau d'ailleurs.
Steve McQueen, alors vous le disiez, il n'a pas eu de très bon rapport avec le milieu, avec Hollywood. Mais on a l'impression que dès lors que la célébrité est là, il va commencer à s'enfermer.
On voit cette paranoïa à l'œuvre dès Les Sept Mercenaires. C'est Yul Brynner qui arrive avec le projet aux États-Unis. Steve McQueen va essayer de voler la vedette à Yul Brynner pendant quasiment tout le film. Et dans une séquence, normalement, il n'a pas de mots. C'est Yul Brynner qui parle. Et finalement, Steve McQueen va attirer le regard vers lui. Et d'ailleurs, on ne voit que lui quand on revoit le film. Parce qu'il vérifie le soleil avec son chapeau, il vérifie son canon. On n'écoute plus du tout Yul Brynner qui parle et qui est en premier plan. On ne voit que lui, et lui, il est magnifique, sous le soleil, et il attire le regard, et à tel point qu'effectivement, en coulisses, le lendemain, Yul Brynner, ayant vu les rushs, débarque dans la tente et menace de lui casser la figure en disant « Écoute, c'est mon film et toi tu n'as pas ». Et pourtant, effectivement, Steve McQueen va véritablement illuminer Les Sept Mercenaires.
Confidentiel.
Confidentiel.
Sur RTL.
Le 8 août 1969, Steve McQueen a prévu d'aller passer la soirée avec une poignée de fêtards chez Sharon Tate. Depuis peu, nouvelle compagne de Roman Polanski. Il doit s'y rendre avec son coiffeur, Jay Sebring, fournisseur de dope et de filles. Au dernier moment, Steve McQueen décline l'invitation, part passer la soirée avec l'une de ses dernières conquêtes. Sharon Tate, Jay Sebring et 2 autres personnes seront sauvagement assassinées cette nuit-là, éventrées par les disciples du hippie Charles Manson. Chez Manson, la police découvrira toute une liste de célébrités de Hollywood à abattre. Frank Sinatra devait être castré, Richard Burton et Elizabeth Taylor bouillis, Steve McQueen égorgé. Steve McQueen, comme tout Hollywood, sort traumatisé de l'épisode Sharon Tate. À cette époque où le mouvement hippie perd ses couleurs, où la boue de Woodstock emportera bientôt les lambeaux des années Peace and Love, Steve McQueen n'échappe pas à la dépression générale. Il a été la 153e star à déposer ses empreintes sur Hollywood Boulevard, mais préfère s'enfermer dans son château de Brentwood. Malgré la grisaille, Steve McQueen sort coup sur coup deux films qui vont faire de lui une icône moderne, indémodable, éternelle. Le premier est « L'affaire Thomas Crown ». À 38 ans, pour jouer un milliardaire désabusé, il apprend à faire un nœud de cravate et à jouer au polo. Faye Dunaway est troublante, mais sera l'une des rares partenaires de Steve McQueen à ne pas tomber amoureuse. Le deuxième film est Bullitt, où dans la peau d'un flic sans illusion, il devient la plus grande star du monde. De quoi attiser le projet que Steve McQueen caresse depuis des années, une ode à la vitesse et au triomphe d'un champion, l'opéra de la course automobile. Le film qui devait sacrer Steve McQueen va l'entraîner dans l'abîme. Le Mans est son plus grand péché d'orgueil. Steve McQueen, persuadé que même sans aucun scénario, Le Mans sera un succès, se trompe, ce sera un échec, et McQueen regrettera plus tard cette magistrale erreur. Sur le tournage, en France, Steve McQueen installe sa femme Neil et ses enfants au château de Lornay. Le couple est déjà à bout de souffle, une illusion de bonheur familial. Si lui ne compte plus ses maîtresses, il ne supporte pas que Neil ait une liaison. Un soir, il se jette sur elle, la fait tomber, lui met un revolver sur la tempe pour qu'elle donne le nom de son amant. Elle quittera la France avec ses enfants. Le couple divorcera quelques mois plus tard. Il s'est coupé de tout le monde. Ce n'était plus le type que j'avais connu. On aurait dit qu'il n'avait plus toute sa tête, confiera le réalisateur John Sturgis. Le Mans signe la faillite de Steve McQueen, personnelle et financière. Il est devenu infréquentable, s'est fâché avec une bonne partie de la profession et n'a plus un sou. Par chance, il reste l'un des acteurs les plus populaires du moment et le box-office ne l'oublie pas. Avec le film Guet-apens, il va non seulement faire son comeback à l'écran, mais surtout commettre l'un des plus retentissants rapts amoureux de l'histoire d'Hollywood. Guet-apens, l'actrice choisie s'appelle Ali Magro. Brune, mince comme une liane, mariée au producteur Robert Evans, elle vient de faire pleurer le monde entier avec Love Story. Célèbre du jour au lendemain et sans doute pour toujours. Une intello à mille lieues de la brutalité de Steve McQueen. Pourtant, au premier regard, tout s'enflamme. Il est entré dans mon monde et il m'était impossible de résister. Je ne pouvais pas refaire surface. Je manquais d'air, dira-t-elle. Son mari producteur essaiera de la récupérer à la fin du tournage, en pure perte. Ali Magro suivra Steve McQueen, pas vraiment pour le meilleur, mais surtout pour le pire. 6 ans de tumulte, de scènes de ménage et de cris entre Steve McQueen et Ali Magro. Amant, puis mari et femme. Avec l'acteur, la violence, les coups ne sont jamais très loin. Celui qu'on surnommait The King of Cool était aussi l'homme qui frappait les femmes. Steve McQueen, qui s'enferme dans la paranoïa et interdit à Ali Magro de poursuivre sa carrière. Elle devient une épouse sous emprise. Le couple s'installe dans une maison isolée à Trancas Beach, près de Malibu. Sur cette plage inaccessible, McQueen laisse dériver son existence. Il grossit, se fait pousser la barbe, fume de l'herbe et boit de la bière toute la journée. Star méconnaissable, ses cheveux ont blanchi et son visage est bouffi. Star capricieuse, qui refuse les films, même le premier rôle dans Apocalypse Now de Coppola, à qui il demande une somme astronomique. Pas envie de passer 16 putains de semaines dans ces putains de Philippines, dit-il. Halim Magro finira par craquer, hurlera un jour qu'elle veut divorcer, puis reprendra sa liberté pour retourner sur scène. Trop tard, elle ne se remettra jamais vraiment de cette passion toxique, une femme en miettes et happée par l'alcool. Steve McQueen avait depuis longtemps des maux de gorge attribués à sa consommation de cigarettes et de marijuana. Il avait même subi une opération secrète pour enlever quelques polypes. Auprès de Barbara Minty, une mannequin de 22 ans, il a décidé de refaire surface, de se reprendre en main, perdre du poids, retrouver sa jeunesse et faire son retour au cinéma. Mais à 49 ans, il a soudain du mal à respirer. Les médecins détectent un mésothéliome, un rare cancer des bronches, sans doute causé par ses courses de moto, où il portait des combinaisons et des foulards traités à l'amiante pour être ininflammables. Des particules d'amiante qui auraient insidieusement envahi ses poumons.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end.
Richard.
Confidentiel.
Steve McQueen.
Au mois d'avril 1980, Steve McQueen offre à Barbara une lune de miel pour leur mariage, une croisière à Acapulco. Mais la douleur est déchirante. Il reste le plus clair de son temps allongé dans la cabine. Une photo de paparazzi le montre en train de débarquer, maigre, chancelant, épuisé. Retour au ranch de Ketchum où le couple s'est installé. Un journal titre « L'héroïque bataille de Steve McQueen contre le cancer ». Sans savoir que l'acteur a refusé la chimiothérapie. Le mal gagne. Steve McQueen se raccroche à tout, à Dieu et à un faux médecin qui lui fait des injections dans un mobilhome. Il téléphone même à son meilleur ennemi, Yul Brynner, pour se réconcilier. L'acteur lui répond « N'abandonne pas, Steve, ne le laisse pas te battre. » Trois mois plus tard, sur les conseils d'un ex-dentiste interdit d'exercice mais qui dit avoir vaincu son propre cancer du pancréas, il entre à la clinique Santa Rosa à Juarez, au Mexique, pour y suivre un traitement révolutionnaire à base d'incantations, de doses massives de vitamines, d'injections de café, de cellules de mouton et d'extraits de noyaux d'abricot. La médecine américaine crie au charlatanisme. Steve McQueen fait la sourde oreille, veut garder l'espoir, rester en vie à tout prix. Le 6 novembre, après une nouvelle opération bourrée de sédatifs, il embrasse ses enfants, Chad et Terry, puis prend la main de Barbara. « Je vais m'en sortir », dit-il. Mais la nuit qui tombe l'emporte dans un souffle. À 3h16 du matin, à l'âge de 50 ans, comme Steve McQueen l'avait toujours dit, sans jamais y croire.
I recall my so-called misspent youth. Seems more worthwhile every single day. Cruising Van Nuys and acting so uncouth. All the joys of running away. There was no speed limit on the Nevada state line. Yeah, it was red wine on those top-down nights. It's you and me, my old roller skate. And the common sense to know our rights. Sweet old racing heart of mine. Roaring down that broken line. Much alive, too fast for comfort, too low to fly, too young to die. Say a man can't love a material thing. With aluminum skin and a cast iron soul. But they never heard your engine sing. Why this peace losing control? Sticky finger, turn up. Flirting with catastrophe. Doing everything that's not a lie. Life didn't come with a woman team. You and me. Sweet old racing car. Much alive. Too fast for comfort. Too low to fly. Too young to die. There is peace in losing control. When I die, I don't wanna go to heaven. I just wanna drive my beautiful machine.
Too Young to Die, Trop Jeune pour Mourir, une chanson de David Crosby dans Le Meilleur de Confidentiel spécial été.
RTL. Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel. Steve McQueen.
Voilà donc pour la vie bouleversée de Steve McQueen et puis cette fin où cet homme qui pouvait être très sombre va s'accrocher jusqu'au bout à la vie. Olivier Delcroix, vous qui nous aidez à mieux comprendre depuis une heure dans ce confidentiel le parcours de Steve McQueen, avant la fin, avant la mort, il y a eu une lente éclipse qui commence, on l'a raconté, avec le film Le Mans. Comment s'est déroulé ce tournage si chaotique ?
Ben effectivement, c'est le point de bascule, Le Mans. Steve McQueen veut tourner le film définitif sur les sports mécaniques. Il veut faire mieux que Paul Newman avec Virage. Il veut faire mieux que Yves Montand dans Grand Prix. Bref, il veut faire le film qui va prouver qu'il est le meilleur. Rien ne va se passer comme prévu. Notamment, il a une aventure avec une actrice un soir. Il est pris d'alcool, il est sans doute un peu drogué. Il l'emmène sur les routes de la Sarthe. Ils ont un accident. Tout ça va être étouffé parce que malgré tout, la star de Le Mans, c'est Steve McQueen. On peut pas dire qu'il a eu un accident. Bref, on étouffe l'affaire. Donc effectivement, ça va de mal en pis. Et puis, à un moment donné, il lâche l'affaire. Il part en Cornouailles. Il va se réfugier en fait chez un ami réalisateur. Il n'en peut plus et je pense que c'est à ce moment-là qu'il va comprendre que cette chimère qu'il poursuit depuis des années, il n'arrivera pas à l'atteindre.
Alors là, le ressort, on a l'impression que le ressort est cassé. Est-ce qu'il n'a pas, Steve McQueen, à ce moment-là, le sentiment d'avoir quand même gâché plein de choses ?
Forcément. Il a cette espèce d'autodestruction chevillée au corps, c'est sûr. Tout ce qu'il aime, il le crame. C'est toujours l'éternelle balance entre Eros et Thanatos. Il est toujours attiré par la vie et en même temps, il ne peut pas s'empêcher de cramer ça, quoi. Mmh. C'est terrible.
Alors, le cancer va le dévorer et le tuer. Mmh. Est-ce qu'il avait des projets qui sont restés dans les cartons ? Est-ce qu'il avait encore un rêve ?
Je ne sais pas s'il avait un rêve. En tout cas, moi, quand j'ai rencontré Chad McQueen, le fils de Steve McQueen au Festival de Cannes, j'en ai un petit peu discuté. Le dernier rêve qu'il ait pu avoir, c'était de renouer avec son fils. Et je l'ai cuisiné, Chad McQueen. Et d'ailleurs, il lui ressemble étonnamment. Il me disait, mais non, mais moi, vous savez, j'ai compris que le dernier enjeu de mon père, qui était bouffé par le cancer, c'était de rattraper les choses. Et je lui ai tenu la main et j'ai dit à Steve McQueen, mon père, que je l'aimais et lui a essayé de le faire aussi. Ce qu'il a essayé de rattraper finalement, c'était pas des projets de cinéma, c'était surtout essayer de rattraper sa vie et ses enfants.
Comment expliquer, Olivier Delcroix, que Steve McQueen soit encore à ce point une icône si moderne, si actuelle ?
C'est vrai, on le voit partout. Parce que de toute façon, il est fascinant. Il est d'une beauté solaire. Et puis voilà, il n'y a qu'à revoir ses films aussi. La Grande Évasion, Les Sept Mercenaires, l'affaire Thomas Crown, cette partie d'échec
extraordinaire. La plus érotique du cinéma.
Mais exactement, c'est formidable ça. La scène de séduction et la scène de baiser la plus longue du cinéma, après Hitchcock, il est d'une élégance à tomber.
Merci Olivier Delcroix de nous avoir parlé de Steve McQueen. Merci à Justine Vigneault qui a préparé cette émission. À François Touchard qui l'a réalisé. Demain, je vous raconterai la vie d'une femme qui s'est d'ailleurs retrouvée un jour dans les bras de Steve McQueen, Natalie Wood. Une vraie saga hollywoodienne. Tout de suite, il est temps de retrouver Laurent Ruquier et toute son équipe pour le meilleur des grosses têtes sur RTL.
Vous écoutez RTL.